Salut belle sorcière blanche, aujourd'hui on vient parler avec Coralie de tarot. Avec sa superbe bienveillance, elle va venir nous faire le tour, un beau tour complet pratiquement, de la superbe médecine du tarot. Tu souhaites contacter l'invité du jour pour profiter de ses produits et services? Clique sur les liens dans le descriptif de cet épisode. Tu y retrouveras toutes les informations. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Sorcellerie Blanche où on partage des trucs spirituels pour t'ouvrir à un éveil encore plus grand. Des tonnes de sorciers et sorcières blanches qui assurent ensemble un cheminement vers ta spiritualité, tout en douceur mais surtout tout en amour. Ici, on te connecte avec la médecine et les thérapies naturelles, tout comme des gens spirituellement inspirants pour que tu puisses arriver à t'éveiller consciemment encore plus afin de te connecter avec ta vraie nature, sans égo et dans l'amour de soi profond. Je suis Gaïa Charline, sorcière blanche, shaman to be et fondatrice des programmes Entrepreneur et Momentum pour aider les entrepreneurs spirituels à vivre aisément de leurs activités tout en restant alignés et intègres. Bienvenue dans mon cercle magique. Bonjour belle communauté, aujourd'hui je viens bien accompagnée avec une belle sorcière qui me fait rire quand elle rit. Je parle de ton rire parce que pour moi il est tellement, tellement unique. Il est thérapeutique. J'ai connu Coco parce qu'elle a fait le programme Momentum avec moi évidemment, mais aussi parce que j'ai reconnu en elle une super belle lumière. Vraiment, vraiment. C'est une mystique engagée. Et Coralie, aujourd'hui, vient nous parler d'un outil qu'elle adore et que j'adore aussi, le tarot. Comment tu vas, Coralie?
Super, merci. Merci de m'accueillir ici.
Je suis tellement contente. Puis c'est drôle parce que c'était spontané, ce sujet qu'on voulait développer.
Absolument.
Parle-nous-en un peu de ce tarot. Toi, ça fait combien de temps que tu l'utilises ou ça fait combien de temps que tu expérimentes le tarot en soi?
Alors, la symbolique des arcanes, en fait, ça a toujours été présent dans mon langage, les symboles, les archétypes, etc. Mais le tarot en tant que tel et l'étude du tarot, je dirais 3-4 ans vraiment de façon dévouée, engagée.
Engagée, comme toi, c'est ça. Et dis-nous, là, tu dois nous expliquer parce que je sais qu'il existe plusieurs types de tarot. Mm-hmm. Explique-nous un peu, tu sais, en grande ligne, là, pour qu'on comprenne un peu plus.
C'est ça. Alors, en fait, on parle souvent du tarot, de manière générale, que véritablement, il existe des tarots. Il y a à la fois des traditions différentes qui portent des symboles et même des trajectoires différentes, puisqu'on va le voir, le tarot, c'est vraiment un chemin de pèlerinage, d'une certaine façon, où on traverse chaque carte, chaque porte, comme des passages. Mmh. Et donc, vraiment des traditions différentes. Je pense notamment au tarot de Marseille, les plus connus, ou le Rider-Waite, qui vont même aller jusqu'à inverser certaines portes, certaines cartes. Notamment la carte de la force et de la justice, mais on y reviendra un petit peu plus longtemps tout à l'heure. Il y a aussi des intentions différentes dans les façons de lire le tarot. Ça peut être des façons plutôt divinatoires ou prédictives, ou alors une façon, des intentions qui sont plus intuitives, plus projectives, où on va nous-mêmes aller donner du sens au symbole. Et enfin, il y a aussi des interprétations qui peuvent être différentes. Alors ça, c'est selon évidemment nos références, mais c'est aussi selon la posture qu'on va avoir en tant que récepteur du message. Soit on va avoir une posture plutôt passive, soit on va plutôt être active dans les sensations, dans l'interprétation et dans la réappropriation du sens.
Oui, j'aime ça. Et toi, lequel est celui qui te fait le plus vibrer, celui que tu utilises le plus? Est-ce qu'il y en a un?
Alors, moi, sur les decks en tant que tels, les jeux en tant que tels, j'en ai pas de préféré, même si je travaille beaucoup avec le Rider-Waite. Et je travaille aussi beaucoup avec le tarot celtique. Et j'ai beaucoup aimé aussi le tarot des éléments. Je crois que c'est le tarot... je sais plus comment il s'appelle. Mais enfin... Pour moi, ils portent toutes les mêmes symboliques et après, ça va être différent. Mais je suis quand même plus attachée au tarot Rider-Waite que celui de Marseille parce que je considère que... Déjà parce que c'est comme ça que je l'ai appris.
Oui.
Et aussi parce que les deux arcanes, notamment majeures, qui changent, c'est la force et la justice. Et dans l'un, le fait de faire appel à sa force intérieure va nous permettre de prendre des décisions, la carte de la justice, alors que dans l'autre, dans le tarot de Marseille, c'est l'inverse, c'est le fait de prendre des décisions qui va nous donner de la force. Et en fait, selon les périodes, je peux me diriger vers l'un ou l'autre, même si j'ai quand même une préférence pour le tarot Rider-Waite, sachant que comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'intention qu'on va y mettre. C'est vraiment le sens qu'on va accorder au symbole, qu'on retrouve dans tous les jeux de tarot, qui va pour moi être guérisseur en tant que tel et thérapeutique.
J'aime ça, merci. Et comment est-ce qu'on apprend? Parce que tu dis que toi, tu l'as appris et tout. Est-ce que c'est une sorcière qui t'a retransmis les connaissances? Est-ce que c'est toi qui as vraiment, de par toi-même, fait l'effort autonome d'apprendre à lire les cartes? Est-ce que c'est possible vraiment d'y arriver à lire le tarot?
Oui, alors je pense que c'est une sagesse qu'on porte à l'intérieur de nous, mais qu'on a besoin de maîtres, de mentors pour nous y amener. Mais je pense que ça, c'est applicable à d'autres choses que le tarot. Moi, j'ai été guidée par une Anglaise londonienne qui s'appelle Jay, Aquarian Insight. C'est son nom d'artiste, voilà. Et elle a vraiment... Aquarian, c'est-à-dire Verseau, en fait, de l'ère du Verseau, en fait. Et elle utilise les cartes vraiment dans un but projectif dans lequel on va se reconnaître. Mais elle nous appelle, en fait, en permanence dans ses tirages à ne pas dépendre de l'extérieur ou de cartes. Des fois, elle se moque en disant que c'est un bout de papier. Et pour demander si on va nous demander en mariage, si on va réussir ou avoir ce travail, etc., selon les questions qu'on va poser, elle va vraiment toujours, toujours, toujours nous ramener à notre puissance intérieure et donc à notre sagesse intérieure et à ce qu'on pressent déjà en termes de sensations, parce que le simple fait de tirer une carte, il y a des sensations qui vont émerger dans notre corps, dans notre mental, des représentations. Et ça va se jouer vraiment dans aller en profondeur là-dedans. Et donc, pour moi, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'en même temps, on a la sagesse à l'intérieur de nous, mais cette sagesse, elle peut rester dormante tout le reste de notre vie si jamais on n'est pas venu la mettre en lumière. Et c'est là où il va y avoir des façons différentes de la mettre en lumière.
J'aime ça. Qu'est-ce que tu dis? Puis ça va avec nos valeurs, là, toi et moi, de dire vraiment... Tu sais, la carte ne va pas te... parler du futur ne va pas te donner des réponses. Tu as déjà la réponse en toi, mais ça va seulement faire émerger ou te confirmer de par la vibration. J'aime
absolument
ça. Et c'est ce qu'on appelle aussi le tarot intuitif, c'est ça? Hein?
C'est ça.
OK. Ouais. Parle-nous, parce que, bon, moi j'adore, là j'aurais 3 millions de questions. Les portes d'entrée, tu parlais tout à l'heure des portes d'entrée dans le tarot.
Alors, il y a plusieurs façons d'entrer dans le tarot. Alors, la première, déjà, c'est évidemment de disposer d'un jeu de tarot. Il va y avoir, je dirais, 3 façons d'y entrer dans le tarot. La première, c'est celle qu'on voit d'emblée, c'est le fait qu'il y a des cartes, des arcanes mineures et des arcanes majeures. Oui. Alors, il y a des tarologues qui n'utilisent que les arcanes majeures. Alors, c'est quoi la différence entre arcanes mineures et arcanes majeures? C'est que les premiers, donc les arcanes mineures, ils sont considérés comme étant des messages qui émanent de notre quotidien. Ils vont de 1 à 10, puis valet, chevalier, dame, roi ou reine, roi. Et en fait, ces arcanes-là, ils vont se situer dans une sphère en particulier. On le reverra tout à l'heure avec la lecture des éléments. Et en fait, c'est vraiment des messages qui vont émaner de notre quotidien, de notre incarnation sur Terre, voilà, de notre vie quotidienne. Les seconds, donc les arcanes majeurs, ceux qui sont le plus visibles, on va dire, eux, ils ont plutôt vocation à nous envoyer des messages du divin, en fait, vers l'incarnation. Sauf que moi, je considère qu'on est des êtres incarnés, qui nous sommes porteurs de l'énergie divine. Et énergie divine ou l'énergie de l'univers, ou on l'appelle comme on veut, mais en tout cas de quelque chose de l'ordre de l'univers. Et pour moi, la spiritualité, elle s'opère vraiment dans cet échange-là, en permanence, entre la terre et le ciel, finalement. Et pour moi, c'est vraiment important de...
Alors, c'est comme ça entre les deux, je m'excuse.
C'est vraiment pour moi important de le noter, parce que ça va donner une toute autre différence au tirage, en fait. Déjà, l'information ne va pas être la même si on veut avoir des réponses, ou en tout cas des éléments d'intuition qui émergent de notre quotidien, de nous, en fait, ou si on va demander à l'univers de nous envoyer des messages. Il n'y a rien qui est mal ou bien, c'est simplement que ça ne va pas être la même chose, pas être le même effet.
Oui, oui, j'aime ça.
Donc ça, c'est vraiment...
Oui, oui. Non, vas-y, continue. Je note mes questions et par la suite, j'y reviens.
Ok, super. Donc ça, c'est vraiment la première porte d'entrée, arcane mineur, arcane majeur. Mais là où je voudrais vraiment insister, c'est sur le fait que chaque carte, chaque arcane, des fois on l'appelle l'âme aussi, fait référence à une facette de nous, à un archétype que l'on porte à l'intérieur de nous et qui constitue des portes de passage sur un chemin initiatique. C'est un peu comme... l'image qui me vient, c'est les personnages de contes dans « Femme qui court avec les loups », tu sais, de Clarissa Pinkola Estes, où en fait, chaque personnage du conte va être en fait un miroir de nous-mêmes. Et bien, les cartes du tarot, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que chaque carte qu'on va tirer, c'est une partie de nous. Donc, si on est un petit peu apeuré quand on tire ou qu'on dit « Oh non, celle-là, je ne l'aime pas », et qu'est-ce qu'on n'aime pas chez nous, en fait, quand on tire cette carte-là ?
Voilà.
Et ça, pour moi, c'est fascinant. Et c'est en ça que, pour moi, c'est infini. Et que tout à l'heure, tu me disais, est-ce qu'on peut tous l'apprendre ? Oui, et c'est surtout qu'on continue de l'apprendre au quotidien, le tarot.
Ouais. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'arrête jamais d'apprendre et d'approfondir, hein, comme enseignement, comme sagesse.
Et d'ailleurs, ça se retrouve, cette idée-là, qu'on n'arrête jamais, elle se retrouve dans la deuxième porte d'entrée du tarot, porte d'accès au tarot, c'est par les cycles de la vie. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je disais, ça va de 1 à 10, valet, chevalier, reine, roi. Et ça recommence en permanence. Le 10, il n'est pas mieux que l'as, parce que justement, on a besoin de l'as pour arriver au 10. Et une fois qu'on est arrivé au 10, on repart à l'as. Et c'est vraiment une façon, je dirais, oui, infinie, mais surtout... essentiel, en fait, de compréhension de notre message, c'est qu'il est jamais définitif, et même une décision ne l'est jamais, finalement.
Exactement. Ah, mais ça apaise beaucoup, c'est ce que tu viens de dire, puis on l'oublie parfois, c'est qu'il n'y a rien qui est permanent.
C'est ça. On est des êtres vivants. Donc, après, j'entends et je moi-même fais l'écueil de ça parfois. Parfois, l'image qui me vient, c'est on voudrait mettre de la laque, tu sais, le spray qu'on met pour que tout tienne. Une fois qu'on se dit « Ah, ça y est, là, je suis heureux. Ah là, ça y est, j'ai le métier que je veux. Bim, là, tout
fond. » Oui, c'est ça.
Mais en fait, cet état d'être figé, de freeze, là, ça, c'est vraiment c'est associé à la mort, finalement. Et ce qu'on voit, c'est que la mort, dans un des tarots, elle ne porte pas de nom. Et en fait, c'est l'arcane 13. Et en fait, ce qu'on voit dans cet arcane-là, c'est le fait que la mort n'est pas une fin en soi. C'est un éternel recommencement. Et pour moi, c'est déterminant de se souvenir de ces cycles-là.
Oui. Quand on a vraiment compris ça, c'est ça... Il y a plein de choses qui changent, qui se transforment dans nos manières de penser.
Absolument.
J'adore, j'adore. Oui. Et comment est-ce qu'on peut, par exemple, tu sais, quand tu parles de justement ces les cycles de la vie, ça veut dire que quand tu tires le tarot va avoir des numéros, c'est ça? Il est différent, le tarot?
C'est ça. Alors, en fait, il va y avoir, donc ce que je disais, les arcanes mineures.
Oui.
Les arcanes mineures, ils sont séparés en quatre éléments. C'est-à-dire qu'on va avoir l'élément eau, qui est symbolisé par la coupe et qui renvoie, lui, au monde des émotions, de l'inconscient et aux relations. On va avoir l'élément air, qui, lui, est symbolisé par les épées, qui renvoie au monde des idées, des pensées, des croyances et les façons qu'on a de les communiquer. Donc, eau et air. Terre, ça va être les deniers ou les pentacles, qui va renvoyer vraiment à notre engagement, à la valeur qu'on va attribuer aux choses, aux situations, aux façons qu'on a de les matérialiser et de les concrétiser dans la matière. Ça, c'est l'élément terre. Et ensuite, on a l'élément feu, qui est symbolisé dans le tarot par les bâtons et qui renvoie à l'impulsion, à la passion, à cette énergie vitale, à la vibration, en fait, qu'on met dans les choses, dans les relations, dans les situations, pour les faire rayonner. Et en fait, quand on va tirer, on va tomber donc soit sur un arcane mineur, soit sur un arcane majeur. L'arcane mineur, ça va être soit un numéro de 1 à 10, valet, chevalier, reine, roi, d'un de ces quatre éléments-là. Et selon, ça va pas porter la même signification parce que ça va pas intervenir sur le même domaine.
Ok, ok, j'aime ça. Tu vois, quand j'ai allé, moi, quand j'ai fait le tarot, je l'ai fait à d'autres moments quand j'habitais au Chili, mais c'est quelque chose, c'est drôle, hein? J'étais tellement dans l'écoute que je n'avais pas remarqué vraiment les cartes. J'aime ça que tu me l'expliques aujourd'hui parce que par la suite, on porte plus attention, évidemment, à aller comprendre encore plus en profondeur la carte en soi. J'aime ça. Merci.
Ben, avec plaisir. Et puis surtout, c'est ça, c'est ce sens, il va venir s'aiguiser, il va venir s'affiner à mesure qu'on va tirer. En fait, c'est une pratique, le tarot. Et donc, de la même façon que quand on va revenir sur notre tapis de yoga, on va avoir des perceptions différentes, même les mêmes postures vont pas avoir le même goût, la même sensation dans le corps. Ben là, ça va être la même chose dans le tarot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je vais avoir prêté une signification parce que je suis à un moment de ma vie où, par exemple, l'arcane du diable va me faire peur. Du coup, je vais lui associer une signification. Et puis, quelques mois plus tard, elle aura plus du tout la même signification.
Oui, oui. Elle va te faire rire la prochaine fois.
C'est ça.
J'aime ça. Juste pour entendre ton rire encore une fois, c'est pour ça que j'ai...
C'est à la demande, ça.
Oui, vraiment. Et est-ce qu'on a le temps, peut-être, que tu nous expliques un peu une phase sur chaque arcane majeur?
Avec grand, grand, grand plaisir. Les arcanes majeurs, comme je le disais tout à l'heure, ils marquent le chemin, un chemin initiatique. Les arcanes mineurs aussi, mais au niveau plutôt quotidien. Là, le chemin initiatique, ça va être le chemin initiatique du mat. En anglais, on l'appelle the fool. C'est un peu le fou du roi. Et c'est, en fait, il va jouer le rôle de pèlerin. Et en fait, il va traverser 21 portes. Donc lui, il a sa carte, c'est le numéro 0. Et ensuite, il va y avoir, en chiffres romains cette fois, les arcanes mineurs, ils sont en chiffres arabes, je crois, on dit, et là, ça va être en chiffres romains, 21 arcanes. Et donc, 21, on va le diviser en 3 étapes, 7, avec à chaque fois 7 cartes. La première étape, c'est vraiment l'apprentissage auprès des premiers maîtres, c'est la formation, on pourrait dire, avec la première carte qui est celle du battleur ou le magicien, qui est dans la symbolique détenteur des 4 as, c'est-à-dire qui c'est vraiment par là qu'on commence, c'est-à-dire tu as tout en toi, tu as tous les éléments en toi. Le numéro 2, ça va être la papesse ou la grande prêtresse. Parce que dans le tarot, il n'y a pas que les hommes qui peuvent être prêtres. Donc, la sagesse, elle est vraiment détentrice de la connaissance, du livre de la vie, donc de la connaissance de la vie et de la sagesse, en fait, du monde, finalement. Elle est souvent associée à l'archétype de la sorcière ou de la grand-mère. Donc ça, c'est le numéro 2, la papesse. Ensuite, le numéro 3, ça va être l'impératrice. Elle, c'est la créatrice. C'est la mère. D'ailleurs, souvent, elle est symbolisée dans les arcanes comme étant enceinte, en étant en train de préparer la vie, finalement. Et donc, elle est à l'archétype de la mère qui invite, qui nourrit, mais qui invite aussi au discernement. Donc ça, c'est la 3. Ensuite, la 4, c'est l'empereur. Lui, c'est l'archétype du père qui va amener la structure, qui va donner des directions et qui va poser des limites pour passer à l'action. Le 5, c'est le pape. Donc, c'est en miroir à la papesse. Lui, c'est plutôt l'archétype du grand-père qui est porteur des traditions, qui valide les expériences. Dans le meilleur des cas, il va le faire au nom de ce qui est juste, au nom de la voix du cœur, mais il peut aussi souvent le faire au nom d'un totalitarisme traditionnel. Voilà, c'est vraiment le pape. Chaque arcane va porter en même temps des énergies hautes, des vibrations qui sont plutôt élevées dans la façon d'amener la carte, le message, et plutôt des vibrations basses. Ensuite, il y a la carte de l'amoureux. Ça, c'est vraiment la voix du cœur, qui invite à dépasser les peurs, les doutes, pour revenir à l'essentiel, revenir à cette petite voix intérieure, celle du cœur. Et pour finir ce premier passage, cette première étape, le chariot, qui est la rencontre du cheval noir et du cheval blanc, c'est-à-dire en fait l'union du mental et du cœur pour triompher. Et ça, c'est vraiment la première phase. Une fois que le battleur il a passé toutes ces étapes-là, il peut passer à la deuxième étape, donc aux 7 arcanes qui suivent, qui vont là avoir vocation à le transformer, parce qu'il va rencontrer ses maîtres intérieurs. Là, c'était des maîtres extérieurs, c'était les arcanes, c'était les premiers maîtres qu'il va rencontrer, le père, la mère, la grand-mère, etc. Et là, il va rencontrer ses maîtres intérieurs. Je poursuis ?
Oui, j'ai une petite question. Tu sais,
je t'écoute.
Quand on tire les cartes, par exemple, ben, y a plusieurs manières. Des fois, on nous demande de toucher les cartes, on nous demande de penser, on nous demande de connecter. Des fois, c'est même à distance, tu sais. L'intention, évidemment, c'est le plus important quand on fait un tirage de tarot. Mais combien est-ce que de cartes, est-ce qu'on pige, est-ce qu'on peut avoir dans cette première étape, tu sais, c'est ça que j'essaie de comprendre, parce que je suis allée, mais je n'ai pas porté attention à comme la structure.
Elle est aussi infinie que les questions que tu peux poser. Les questions préférées que j'ai posées, c'est comment je peux me présenter au monde, comment je peux agir pour traverser cette situation. Oui. Et là, question qui est ouverte. Et donc, en fait, là, c'est à l'intuition vraiment. Il n'y aurait pas de réponse établie, parce que là, tu peux te dire, je vais plutôt faire un tirage. Il y a plein de tirages, de structures de tirage qui existent. Mais moi, selon les personnes qui se présentent à moi, ça va jamais être le même tirage. Et je vais vraiment laisser mon intuition agir, parce que je vais plutôt sentir que la personne elle a besoin d'être ancrée dans le présent. Oui. Peut-être que aussi elle me donne trop de pouvoir, parce qu'en tant qu'astrologue, en tant que professeur de yoga ou en tant que tarologue, on a un pouvoir immense. Quand les personnes viennent nous voir, souvent elles sont démunies, et donc elles sont en quête de sens, etc. Donc moi, c'est vraiment une façon de lui redonner son pouvoir, et donc je vais lui mettre 3 cartes devant elle et je vais lui demander finalement qu'est-ce que ça lui fait émerger. Donc ça va être vraiment un échange dans le tirage. Et puis d'autres fois, je vais suivre une structure qui va être vraiment plus figée. Donc ça va vraiment dépendre du moment, en fait.
Parfait.
J'ai répondu à ta question.
Oui, c'est ça. Donc, on peut avoir, tu sais, je pose une question, puis on peut avoir une carte, on peut en avoir 3 ou 5, ou il n'y a pas en soi une seule manière de faire.
Non, et à chaque fois, ça va t'amener une subtilité de compréhension différente, parce que des fois, tu vas tirer une carte et puis tu vas te dire, ça ne me parle pas. Et donc, du coup, parfois de venir, c'est ce qu'on appelle les clarificateurs, en fait, de venir clarifier cette carte-là avec une autre. Et là, tout de suite, tu vas te dire, ah, d'accord, c'est dans ce sens-là que je vais l'interpréter. OK.
Puis surtout que
la tarologue... deux, ça suffit.
Oui, c'est ça. Puis souvent, c'est que la tarologue n'a aucune idée vraiment... T'sais, moi, personnellement, quand je ne donne pas trop d'informations, parce que je veux vraiment que ce soit, tu sais, comment je pourrais dire? J'aime que la tarologue, la fois que je suis allée, la dernière fois, là, qui a été vraiment, c'est qu'elle a, je ne lui ai pas donné d'informations. Et elle est complètement juste. Elle m'a donné, tu sais, des réponses sans savoir, elle, tu sais, ça ne faisait pas de sens pour elle.
Donc, ouais.
C'est ce que j'aime. Quand tu parles pour une, ça peut faire... Mais des fois, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous confirme peut-être, comme tu dis, l'information pour que ça fasse
c'est ça.
Pour nous. Ouais.
Et c'est pour ça aussi que je préconise aussi d'allier à la fois la pratique personnelle et de se familiariser, voilà, à tirer des cartes comme ça pour s'amuser et en même temps, parfois, de se faire tirer le
tarot. Oui.
Par d'autres personnes, mais même par des personnes différentes, parce qu'en fait, elles vont toujours avoir un angle de vue, un point de vue différent, et donc ça va donner un sens différent.
Oui.
Et pour moi, c'est riche, en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, et la variété, pour moi, des interprétations, c'est ça qui amène la richesse.
Exactement, exactement. Oh, j'aime ça. OK, on continue. Deuxième.
On continue. Donc, la deuxième phase, en fait, du pèlerinage, on pourrait dire, du chemin initiatique, ça va être la transformation, donc avec la rencontre des maîtres intérieurs. Donc, c'est là où on va avoir l'arcane 8 qui va être soit la force, soit la justice. Donc, c'est la force, on va commencer par la force, c'est vraiment la maîtrise de son instinct animal. Souvent, c'est représenté avec un lion, mais c'est un lion qui est presque docile. Donc, c'est vraiment pour placer la conscience au sens de toute chose, c'est-à-dire amener notre force, finalement, notre puissance intérieure. Ce n'est pas le pouvoir qu'on va avoir dans la société ou dans notre famille ou sur notre corps, ça va être la conscience. Donc, l'arcane 8, la force, ça va être vraiment ça. Le 9, ensuite, c'est l'ermite, c'est le guide intérieur qui invite à la solitude pour retrouver sa torche intérieure parce qu'il est porteur de la lumière. Le 10, ensuite, ça va être la roue de fortune. Là, on retrouve cette idée des cycles dont on parlait tout à l'heure. Mm-hmm. Dans, est vraiment venu de... quand on dit la roue tourne, c'est vraiment de se libérer des vieux schémas, des vieilles structures et d'honorer aussi le temps qui passe.
Oui.
L'arcane 10. La 11, ça va être donc là la justice. C'est l'exigence de vérité. Alors d'abord, entre soi et soi. Avec les miroirs de nos ombres, de nos lumières, pour prendre des décisions. Et il y a vraiment cette idée de, c'est symbolisé par l'épée, hein, la justice aussi. Et donc, c'est cet élément R dont on parlait tout à l'heure, qui va venir poser des décisions alignées à notre vérité.
Oui.
Le 12, ça va être le pendu. C'est la carte là du lâcher prise, des attentes, des illusions aussi qui invitent à renouveler nos valeurs et à voir les choses d'un autre angle de vue.
J'ai une question qui me
surprend.
Ouais. Parce que je sais qu'il y a des jeux de tarot où ça change si la carte est à l'envers, à l'envers ou à l'endroit. C'est encore
une
fois pourquoi peut être à l'endroit pour moi. Mais est-ce que toi aussi tu utilises cette technique ou
Non, moi je l'utilise pas.
Ok, ok.
Je l'utilise pas.
Mais ça, c'est vraiment il y a une compréhension différente si la carte est à l'endroit à l'envers, hein, si je me rappelle bien.
Oui, on peut avoir de façons différentes. C'est ce dont je te parlais tout à l'heure, enfin je vous parlais tout à l'heure quand je disais il y a toujours une vibration haute et une vibration basse finalement. Il y a une et en fait pour moi c'est ça, à l'endroit à l'envers, c'est un peu ça. Et donc souvent, et c'est pour ça que mes tirages ils sont longs parfois, parce qu'en fait moi je vais toujours donner les deux sens, parce que pour moi la pièce elle n'existe pas toute seule, il y a toujours une face et l'autre face, parce que selon comment on va se réajuster, on va pouvoir retomber dans la vibration basse, dans la carte à l'envers on pourrait dire, ou dans la vibration haute, et ça va changer. Donc moi je préfère donner les deux possibilités, mais je sais aussi que dans l'instant, on peut se focaliser sur une chose. Mais en fait, moi, c'est vraiment toujours dans cette intention de donner des éléments de compréhension et donc que la personne puisse donner le sens qu'elle a envie de donner.
J'adore, j'aime ça. Parce que sur une médaille, il y a toujours deux côtés. Mmh. Et j'ai besoin de savoir les deux côtés pour réellement aller connecter avec ma puissance intérieure et savoir quelle est ma vérité.
Absolument.
Moi, wow. Ça fait tout son sens ce que tu viens de dire, de toujours d'exposer les deux côtés. Et par la suite, en ayant les deux côtés, là, je vais connecter à ma vérité. Ah, oh, j'aime ça, merci. Oui.
Mais avec plaisir. Et c'est aussi pour ça qu'on sort de cette binarité un peu moralisante du bien et du mal, parce qu'en fait, on se rend compte que la lumière, elle ne peut pas exister sans l'ombre. Donc, si en fait, on casse l'ombre et qu'on se dit non, 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 l'amoureux, c'est toujours la voix du cœur, c'est toujours la voix du cœur, etc. Oui, peut-être. Mais déjà, l'amoureux, il est relié, parce qu'après, bon, on pourrait aller encore dans des subtilités différentes, mais chaque carte va être associée à un signe astrologique. Moi, ça me passionne de pouvoir lier les deux. Mais la carte de l'amoureux, c'est relié au signe du Gémeaux. Donc, c'est pas du tout, c'est un signe d'air, c'est pas du tout un signe d'émotion. On aurait pu croire que c'était le cancer, par exemple, alors que le cancer, oui. C'est la reine d'eau. La reine. Donc finalement, c'est pour moi, plus on a ces éléments-là de compréhension et plus on peut se sortir de la binarité, parce qu'on peut. On admet aussi qu'on est ombre et lumière et que c'est en venant apposer notre conscience et nos connaissances sur l'ombre qu'on la fait devenir lumière.
Exactement. Oh, j'aime ça, merci Coralie.
Avec plaisir.
Je m'excuse de t'avoir interrompu, on continue, mais c'était une bonne parenthèse qu'on a fait là.
J'adore. On continue donc sur l'arcane 13.
Oui.
Donc, soit qui porte le nom de la mort, soit qui n'a pas de nom. Mais en tout cas, elle est porteuse de l'énergie de Pluton, j'en reviens encore à l'astrologie, d'Hadès, du roi des enfers, qui invite à mourir pour renaître à soi-même. C'est vraiment cette idée de mort pour la renaissance, en tout cas de mort associée à la renaissance. Et enfin, pour clôturer cette deuxième phase, la tempérance, l'arcane 14, elle va apporter l'harmonie qui naît de cette phase de transformation. Et c'est la carte qui va naviguer entre les eaux de l'action et de la réflexion. Tantôt j'agis, tantôt je pense. Et je réajuste en fonction. Et c'est cette carte qui nous ouvre les portes de la troisième étape, qui est l'étape de la mutation. On a eu la formation, la transformation, et là, on passe vraiment à la transmutation, c'est-à-dire qu'on va rencontrer les maîtres célestes. Je continue.
Oui, vas-y, ouais. Ben oui, je t'écoute.
Alors, donc, l'arcane 15, c'est le diable. C'est la tentation de se laisser dominer par ses désirs. Et cette carte, moi, je vais faire juste une petite parenthèse, elle me fascine parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé avec elle. Quand je dis travailler, c'est qu'en fait, elle sortait à tous mes tirages. Et j'étais là, mais c'est pas possible. Et donc, j'en voulais pas de cette carte jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, c'est la face cachée, c'est le deuxième pan, le deuxième aspect de la carte de l'amoureux, de la voix du cœur. C'est la tentation. J'avais écrit un écrit sur le fait de le risque de s'aimer trop quand parfois en fait ça tombe dans la complaisance. Et ben là, le diable il vient nous dire oui l'amour de soi, mais ne te laisse pas non plus oui les désirs, mais ne te laisse pas non plus dominer par ces désirs. C'est vraiment le retour de la médaille des amoureux qui nous maintient dans des liens toxiques et c'est vraiment la carte qui me fait dire que l'amour peut être autant un remède qu'un poison.
Exactement, comme tout.
Absolument.
Oh, ouais.
Donc, ensuite, ça va être l'arcane 16. Donc, c'est la tour ou la maison Dieu. C'est vraiment l'effondrement soudain. C'est comme la foudre uranienne de toutes nos croyances et nos protections. Parce que quand on met une tour autour de nous, c'est vraiment des protections. Et c'est encore pour nous inviter à la reconstruction non plus dans les peurs, cette fois, qui demandaient une protection, parce que si on se protège, c'est parce qu'on a peur, mais là, d'être dans la voie et la joie de l'amour. Donc ça, c'est l'arcane 16. 17, c'est l'étoile, porteuse du concept de sororité et d'amour inconditionnel. Alors, c'est assez rigolo parce que c'est une carte qui est associée au Verseau, qui est souvent considéré comme étant le signe le plus détaché du cercle zodiaque. Alors que si on se souvient bien, la Saint-Valentin, la fête de l'amour et des amoureux, et ben, tombe en plein dans la saison du Verseau. Parce que le Verseau, il est porteur de cette énergie du collectif et c'est un visionnaire de l'amour inconditionnel. Et la carte de l'étoile, elle porte ça. C'est le concept de sororité et d'amour inconditionnel qui est suffisamment détaché pour déverser réconfort et support sur l'humanité. Il y a vraiment cette idée d'immensité et d'humanité dans ce don de l'étoile. Je l'adore. on passe dans... Mais en fait, je les aime toutes, mais que celle-ci, elle me parle. Celle-ci est la 3 de coupe dans les arcanes mineurs. C'est vraiment mes préférés. L'arcane 18, c'est la lune. C'est l'invitation à plonger dans le brouillard de l'inconscient. Donc, il y a toujours des va-et-vient. En fait, c'est là où on se rend compte dans le tarot qu'on n'est jamais arrivé, en fait, parce qu'il y a toujours des réajustements. C'est vraiment l'invitation donc à plonger dans notre inconscient, dans nos peurs et dans nos émotions, sans y voir clair, parce que la lune, elle symbolise la nuit, évidemment. Et donc, c'est toujours cette idée d'avoir foi, en fait, de croire qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Et la lune, elle symbolise ça. Mmh. Et elle arrive avant le soleil. D'où la nécessité dans le chemin initiatique, la nécessité d'abord de se frotter à ces ombres pour ensuite leur amener la lumière, la conscience du soleil. Le soleil, c'est vraiment celui qui pose la conscience sur les choses et qui invite à la joie aussi et à la joie du renouvellement.
Ouais.
Et enfin, on va arriver sur les dernières. L'arcane 20, c'est l'arcane du jugement. C'est finalement c'est un peu l'ultime prise de conscience. Moi, je parle d'épiphanie souvent après le soleil. L'appel du divin qui nous fait nous présenter, nous mettre à nu. Et d'ailleurs, dans la symbolique, si vous regardez les cartes du tarot, les personnes qui se présentent sont nues. Elles n'ont plus besoin d'artifice, elles n'ont plus besoin de masque, elles n'ont plus besoin de vêtements, en fait, de se parer de personnages. Et l'arcane 21, c'est l'arcane du monde, c'est l'épanouissement, c'est la réalisation de l'unité. Et en même temps, dans l'unité, il y a la totalité, parce que c'est la dernière carte, c'est la dernière porte. C'est la dernière porte que va passer le mat. Donc le mat, je disais tout à l'heure, c'est l'arcane 0. C'est celui qui mène ce voyage. C'est celui qui est prêt à sauter dans le vide d'une certaine façon, avec son bâton de pèlerin, avec sa lumière intérieure, avec ses rêves, avec ses émotions, pour réinvestir dans un voyage intérieur et un énième voyage intérieur, parce que ça recommence.
Wow, wow. Hey, merci d'avoir fait le tour comme ça.
Avec grand plaisir, hein?
De nous avoir éclairé sur comme tout le cycle du tarot en soi. J'adore le fait aussi que tu sois, parce que ta manière de le faire intuitivement, c'est quand on parle, quand on a parlé il y a plusieurs mille années, les deux pieds sur terre, la tête. Mm. C'est exactement ça que tu projettes.
Ah, oh, merci!
Vraiment, parce que, tu sais, on peut avoir des interprétations, mais l'interprétation, il faut que ça soit toujours connecté à son propre intuition, d'abord et avant tout, tu sais.
En tout cas, c'est l'intention que j'ai, c'est d'utiliser cet outil-là pour... Non plus pas pour réinvestir un pouvoir sur les personnes et me dire que je serai leur thérapeute ou que grâce à moi, ils vont aller mieux. Non, ça m'intéresse pas. Même si on en tire une forme de jouissance sur le moment, l'idée, c'est de pouvoir retransmettre. C'est la carte de l'ermite, finalement. L'idée, c'est de faire sentir, de donner suffisamment d'éléments, d'informations pour que la personne se saisisse pas dans ce qu'il a peut-être d'une seule chose, mais qui va lui permettre de retrouver cette lumière à l'intérieur d'elle. La carte de l'ermite qui va lui permettre d'éclairer son chemin.
Oui, oui. Puis de devenir autonome.
Absolument.
Mais en même temps, tu sais, devenir autonome dans ce processus-là, sauf que moi, ce que j'aime, c'est de faire un bout de chemin seul, autonome, d'aller regarder et par la suite de sentir cet appel. Parce qu'on a besoin des autres, on a besoin de guidance pour pouvoir poursuivre, tu sais, dans ce chemin-là. Donc, c'est une belle porte à aller cogner chez toi pour avoir encore plus de guidance quand on en a peut-être besoin à une certaine saison de vie qu'on peut vivre, qui est peut-être plus difficile ou même joyeuse, hein. Des fois...
Absolument.
Tu sais, c'est bien d'aller aussi, pas juste aller demander un accompagnement quand ça va pas bien. Quand ça va bien aussi, c'est fantastique.
Ça peut être un cadeau qu'on se fait à soi, comme une célébration aussi. Je sais que moi, j'adore m'offrir des tarots ou des lectures du thème astral. Je le disais tout à l'heure, à la fois pour diversifier, parce que nous, on pense toujours à partir de notre prisme, hein, finalement. Donc, oui. On en fait vite le tour, avoir cette focale qui est peut-être déplacée, qui va faire la richesse de l'interprétation, mais aussi pour s'offrir en fait à un nouveau sens, s'ouvrir des portes auxquelles on n'aurait pas pensé. Et ça, pour moi, c'est précieux de pouvoir aller vers des personnes de confiance qui puissent en même temps nous faire nous souvenir qu'on a le pouvoir à l'intérieur de nous, mais qu'elles sont là aussi pour nous. Et pour moi, ça marche en fait.
Exactement. Toi, Coralie, tu offres des sessions justement comme ça. Est-ce que tu en fais aussi à distance?
Oui, justement, là, c'est ce que je mets en place. C'est vraiment des tirages, alors qu'ils sont assez longs. Ça va être des séances d'une heure avec une question généralement une question générale et après des questions plus précises. Et j'envoie ensuite en vidéo le tirage complet. Donc là, il n'y a pas vraiment d'interaction dans le moment. Donc, je suis vraiment dans la transmission comme si j'étais canal du message finalement. Mais il y a toujours l'énergie. Le partage, il se fait dans le fait que je demande à la personne de me donner le sens de ses questions. Enfin, pas le sens de ses questions, mais en tout cas de me dire pourquoi elle est là. Et parfois, c'est... Il n'y a pas de raison. Et donc là, c'est une ouverture totale. J'adore.
C'est ça.
J'adore. Donc vraiment, c'est un plaisir de pouvoir offrir ces tirages de tarot.
Oui, on va mettre le lien de toute façon en commentaire pour les gens qui ont vraiment envie, parce que je sais que toi, c'est différent. Et comme tu disais, tu utilises aussi tes connaissances en astrologie. Il y a un mélange là dans tes, comment on dit ça, dans tes sessions de tarot?
Oui, dans mes tirages, dans mes sessions, oui.
Voilà, tellement que je cherchais tirage. Hey Coralie, je te remercie beaucoup d'être venue mettre en lumière cet outil de sorcière, parce que dans Sorcellerie Blanche, on aime toujours ouvrir encore plus de portes sur tout ce qui est et tout ce qui peut peut-être nous donner encore plus de guidance dans notre cheminement, dans notre guérison, notre libération. Et aujourd'hui, tu nous as ouvert encore plus un intérêt encore plus grand vers le tarot.
Eh bien, écoute, avec grand, grand, grand plaisir et une grande, profonde joie. Merci, Gaïa.
Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @GaïaTotal, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Wahegudu, belle âme.